Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec Loumir Laprès, la petite nouvelle de la bande militante écolo et prof à Sciences Po. On est avec également notre médecin Robert Sebag et le journaliste Fred Hermel avec vous également au 32-16 pour intervenir sur notre prochain débat. Nouveau montant pour la retraite minimum, 1130 euros, mais c'est même pas 200 euros de plus que le minimum vieillesse. Est-ce que c'est suffisant quand on a travaillé toute sa vie? On vous attend bien sûr au 32-16 et sur l'appli RMC. C'est 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On parlera des jus de fruits. Est-ce qu'il faut continuer à en consommer? C'est la question qu'on se posera. À 14h, plus de 400 000 couples se séparent chaque année en France. Mais alors, manière douce ou manière forte, y a-t-il une bonne façon de rompre? Dites-nous tout, donnez-nous vos astuces, pourquoi pas. Au 32-16, 14h30, RMC s'engage pour vous. Et Amélie Rosy qui tentera d'aider les habitants de l'un des plus beaux villages de France. Il leur manque juste une chose à ses habitants, un médecin. Ils recherchent un médecin, on verra si on peut les aider. Et puis peut-être, Rémi, qu'on ouvrira le coffre RMC.
À quelques jours de la Coupe du Monde, en effet, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech. Vous vous inscrivez tout de suite, pour ça c'est simple. Vous envoyez le mot coffre par SMS au 732-16. Et si vous êtes sélectionné, eh bien vous reportez le téléphone Samsung Galaxy M23 et le visioprojecteur portable. Mais attention, soit vous gardez ce cadeau, soit vous y renoncez. Et à ce moment-là, vous pouvez ouvrir le coffre de la Coupe du Monde, le coffre RMC, avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde. Une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Pour ouvrir le coffre RMC, si vous en avez la chance, eh bien c'est simple, vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC et on va tout de suite s'intéresser à l'annonce du jour. C'est celle faite par Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Le montant de la retraite minimum pour une carrière complète va passer à 1130 euros, c'est 85% du SMIC. Mais il y a toujours, Rémi, moins de 200 euros d'écart entre ce montant et celui du minimum vieillesse.
Exactement, alors que le deuxième cycle de négociations sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux s'est ouvert hier, eh bien le ministre du Travail annonce que le gouvernement compte aller au-delà de 1100 euros de retraite minimum pour une carrière complète. C'était d'ailleurs une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. L'idée, selon Olivier Dussopt, serait donc de porter cette retraite minimum autour de 85% du SMIC net. Au vu de l'inflation et de la revalorisation du SMIC, cela équivaudrait à 1130 euros aujourd'hui net. Pour le ministre, il s'agit en fait de créer un écart suffisant, c'est l'objectif, hein, entre le minimum vieillesse, qui atteint aujourd'hui 953 euros pour une personne seule, et donc la retraite minimale quand on a travaillé tout au long de sa vie afin de valoriser le travail, c'est l'objectif, et de conclure que cela devrait permettre à environ 25% des nouveaux retraités, et le plus souvent de femmes, d'avoir une pension plus élevée. On l'a compris, dans l'esprit, Estelle, c'est bien d'accentuer l'écart entre ceux qui ont travaillé et ceux qui n'ont pas travaillé, mais
toujours un écart minimal,
la question, elle est-ce que cet écart est suffisant ou pas?
Alors, est-ce que c'est suffisant, 1130 euros pour un minimum retraite quand on a travaillé toute sa vie, Fred Hermel?
Alors, bien entendu, ça sera jamais suffisant. Mais moi, j'aime le symbole. Il y a un symbole, c'est-à-dire qu'en France, le seuil de pauvreté, qui est calculé, hein, selon l'INSEE, à 60% du revenu médian, est à 1100 euros en France. C'est-à-dire que jusqu'ici, on considérait que le minimum vieillesse était en dessous de ce qu'on considère être le seuil de pauvreté. C'était tout simplement pas acceptable. Donc je trouve qu'au niveau du symbole, déjà, on atteint et dépasse le seuil de pauvreté. Donc c'est déjà, je trouve que c'est déjà bien au niveau de l'image.
Bah, surtout quand on a travaillé toute sa vie.
Bah, bien sûr, bien entendu, quoi. Donc non, ce n'est pas assez. Alors après, il faut voir un minimum vieillesse, une retraite minimale à 1100 euros. si elle est accompagnée d'APL, enfin d'aide sociale, ça commence à être honorable, on va dire. Voilà, moi je trouve que c'est une évolution qui
est. T'as une carrière complète et que t'as travaillé toute ta vie. Ouais. T'es même pas à 200 euros du minimum VS, donc pour des gens qui n'ont pas travaillé toute leur vie.
On est d'accord.
Ça ne te gêne pas.
Mais si, c'est.
Ça m'étonne, ça ne gêne pas.
Mais bien entendu que c'est gênant. J'ai dit que bien sûr que ça ne sera jamais suffisant. Mais je trouve qu'au niveau du symbole, déjà, on comble une hérésie qui était de donner moins que ce qu'on considère être le seuil de pauvreté.
Mais est-ce que le symbole, Robert, ce serait pas justement d'avoir une plus
symbole,
grosse différence
symbole.
Sinon, ça pousse pas à bosser quand même. Hein.
Je crois qu'il faut remettre ça dans le contexte de la réforme des retraites. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On sait qu'il y a un refus catégorique de tous les partenaires sociaux sur l'allongement. Donc le gouvernement aujourd'hui, il essaye d'aller par étapes, de donner des aménagements. Voyez, on va passer à 1130. Il a même parlé de 1200. Donc déjà, ça. Après, il dit non, mais vous inquiétez pas, parce que sur les carrières longues, on va trouver quelque chose. Et sur la pénibilité.
Oui.
Après,
enfin, on voit toujours pas, on n'a rien à venir.
Mais après, il dit, il y a l'emploi des seniors. Mm-hmm. Hein. Alors, si vous voulez, quand vous remettez tout ça à la file, vous apercevez que cette réforme des retraites, qui normalement devrait permettre des économies, elle va coûter beaucoup plus cher. Ça va être des dépenses. Donc, dans ce contexte-là, le gouvernement marche à tâtons, parce qu'il sait qu'il y a un refus, donc il dit « je vais céder là-dessus ». Mais si on voit par exemple l'histoire des carrières longues, moi j'ai regardé ça, c'est assez incroyable, parce que si vous travaillez et vous avez un salaire avant l'âge de 20 ans, chaque trimestre, ben ça compte, vous pouvez allonger et gagner un trimestre. Mais vous avez des jeunes à 16 ans qui font des stages ou qui font un petit boulot, ils ont un salaire. Et donc on va les considérer, si vous voulez, comme carrière longue. Si vous prenez un étudiant qui est en prépa en polytechnique, à 19 ans, il va rentrer à Polytechnique ou une autre grande école, il va toucher un salaire. Et donc, on va considérer pendant quelques trimestres, il va avoir droit à une carrière longue, alors que là, on peut pas dire quoi, c'est quand même extrêmement particulier. Donc, il y a plein de choses trappes de ce type, et le gouvernement essaye de trouver un certain nombre d'aménagements, dont celui-ci. Maintenant, quand
ça n'encourage pas le travail.
Oui.
Quand on te dit, bah tiens, vous avez travaillé 2 ans de plus pour gagner 30 euros de plus, bah c'est super, bah c'est génial, vraiment.
Non, mais justement, on sait que aujourd'hui, quand on regarde le coût de la vie, quand on regarde le panier alimentaire, quand on regarde les problèmes des prix des carburants, c'est pas possible. On peut pas vivre. Moi, je me demande comment les gens font. Donc là, il y a un vrai problème, si vous voulez.
Et non, mais dire que les gens ont tendance à regarder leurs voisins, là, si tu veux, le fait qu'il n'y ait même pas 200 euros d'écart, moi, je pense que ça.
Oui,
ça...
mais ils vont aller à 1200. Ils vont aller à 1200.
Bah non, parce que le nouveau montant, c'est 1130. Il va pas aller à 1200.
C'est 85%. Alors, il faut voir ce que ça, les aides à côté, si vous voulez.
Mais, c'est ça.
Et puis, on retombe toujours sur la même chose. C'est quoi la valeur du travail? Valeur du travail de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui a cotisé. Et donc, il va y avoir une différence par rapport à quelqu'un qui a pas du tout travaillé. Donc là, il y a quand même, entre guillemets, peut-être un certain nombre d'injustices.
C'était important de revaloriser ce montant pour vous, Loumia?
Oui, à partir du moment où on donne plus d'argent à des gens qui ont bossé toute leur vie, c'est bien, on va pas cracher dessus. Après, on peut célébrer ça comme mieux, tout en disant c'est pas parfait. Et je suis vraiment d'accord avec vous, si on parle de valeur travail, si on dit on veut que les gens soient fiers de leur travail, qui leur permettent de vivre, parce que les gens veulent pas d'aide, en fait, c'est quand même très rare. Et ça, je vous le dis, pour avoir passé 9 mois à toquer à des portes, des heures et des heures et des heures, dans des villages, dans la France périurbaine, en tant que candidate, en banlieue, en fait, j'ai vraiment eu des milliers de conversations, pas une seule fois, vraiment. Ou alors je les compte sur les doigts d'une main. Quelqu'un m'a dit, moi je vais rester à la maison parce que j'aime bien. Par contre, on m'a dit, je me pose honnêtement la question de rester à la maison versus d'aller travailler, parce que entre l'essence, la nourrice, la cantine,
il y a pas d'avantage à travailler.
Plus cher, problème. Et donc, si on dit aux gens, vous allez partir plus tard à la retraite, et en plus, quand vous serez à la retraite, vous aurez 1000 balles. Mais comment est-ce qu'on veut se dire que les gens vont avoir envie d'y aller? Donc on peut aussi discuter de, en effet, l'environnement autour. Si l'État redistribue mieux les richesses, parce que des richesses dans notre pays, il y en a. Enfin,
Elles sont distribuées. Hein.
Non,
vraiment aussi, mais
elles sont mieux distribuées qu'ailleurs.
Bah oui, mais c'est déjà
mais,
bien.
Mais moi, je pense que quand les ultra riches évadent leur argent,
mais ils sont riches, combien c'est pas, mais c'est rien, les ultra riches.
Non, on parle de milliards.
C'est
100 milliards.
C'est un film de la population.
Non, mais l'OMIR, ils dépensent, les ultra riches aussi. Il faut tourner le système économique aussi.
Je veux bien. Qui dépense en France et qui fait marcher l'économie, c'est nous, c'est les classes moyennes.
Il y a beaucoup de classes moyennes.
Si, on peut pas dire qu'il y a plus de classe moyenne. Il y a des, quand le revenu médian il est à 1 700 euros, c'est une classe moyenne. Quand on gagne 2 000 euros par mois, on est dans la classe moyenne.
Enfin, 1 700 euros, enfin pour moi c'est pas classe moyenne.
Bah oui, mais si, malheureusement
tu bénéficies des aides, etc.
Le salaire médian, c'est plutôt 2 200. Le salaire médian.
Mais salaire médian 1 700. Mais donc pour moi, en fait, même s'ils sont pas très nombreux, il y a de l'argent à aller chercher. Donc si on redistribue mieux ses profits, ça c'est un choix politique et idéologique. Moi je pense que c'est important et qu'on est capable de dire aux gens, votre hôpital il va être de meilleure qualité, l'école de vos enfants sera de meilleure qualité, les routes, etc. Mais vous n'aurez que 1 000. Bon, moi je me dis, on peut aussi, si vraiment ils ne veulent pas aller au-dessus de 1 000, alors qu'ils nous donnent des services publics de bonne qualité. Parce qu'au moins comme ça, on dépensera moins d'argent en mobilité, moins d'argent pour se soigner et on aura une vie de meilleure qualité. Mais on ne peut pas ne pas refinancer l'hôpital public et donner 1 100 euros aux gens en attendant qu'ils accèdent à tous les services dont ils ont besoin pour bien vivre. Enfin, c'est pas possible.
Les services publics vous donnent pas à manger. C'est très important. Mais je veux dire.
Je suis d'accord. Mais quand vous devez manger tout à les courses et en plus
vous avez cotisé, vous avez une carrière complète, donc vous avez cotisé toute votre vie finalement pour votre retraite. Donc
et vous avez droit en fait, vous méritez de vivre dignement quand vous avez bossé toute votre vie. Enfin, et on ne vit pas dignement en France avec 1 100 euros par mois. Je voudrais juste petite parenthèse revenir sur la carrière complète. Ça ne concerne pas un nombre important de femmes. Et ça, il y a quand même un sujet pour moi qui est que on fait que nous dire il faut faire des enfants pour rester compétitif. Si en plus on
personne ne fait des enfants en se disant tiens je vais me débrouiller pour que la France reste compétitive, je vais faire un enfant.
Non mais ça c'est sûr. Mais par contre dans le parcours d'avoir un enfant on peut se poser la question de en quoi ça va heurter mon niveau de vie, ma carrière, etc. Et ça peut jouer un peu. Bien évidemment que les gens font pas des enfants pour ça.
On a parlé la semaine dernière d'un salaire,
d'un revenu pour les mères au foyer,
qui font un vrai travail qui n'est pas rémunérées aujourd'hui, mais heureusement qu'elles sont là quand même.
On est d'accord, mais enfin, y en a de moins en moins, tout de même. On est avec Didier qui nous appelle de Gara en Charente. Bonjour Didier.
Oui, bonjour à toutes les.
Bonjour Didier. Bonjour.
Didier qui est retraité depuis le 1er novembre, tout jeune retraité, Didier.
Oui, c'est ça, tout jeune. Félicitations. Tout frais. Et vous voyez, quand je vois ma feuille de ma future retraite, bah finalement, je me dis, il aurait peut-être fallu que j'attende un petit peu, puisque j'ai en net mensuel 1077,36. Vous voyez, c'est précis. Hein.
Ah oui.
Bah, ça va être revalorisé.
Vous faisiez quoi comme métier?
Vous allez gagner 60 euros.
Eh bien, écoutez, j'ai fait à peu près plus de 20 ans de salarié et 25 ans à mon compte. Et vous voyez, j'ai travaillé à 16 ans. À 16 ans, j'ai travaillé.
Vous faisiez quoi, Didier?
J'ai vendu des véhicules à mon compte et après j'étais salarié. Okay. J'ai à peu près eu 7-8 mois, on va dire, de chômage dans toute ma carrière.
D'accord.
Et vous voyez, j'ai 2 enfants, et ben j'ose même pas leur montrer parce que je pense qu'ils vont arrêter de travailler. Ouais. Mmh. Parce que quand on voit ça et qu'on veut motiver les gens à aller au boulot, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Vous vous rendez compte? Et si j'étais tout seul, aujourd'hui, si je suis tout seul, ma femme travaille, si je suis tout seul, mais je fais comment? Je fais comment pour avoir avec 1077 euros?
Mais Didier, il est de combien votre salaire quand vous travaillez?
Eh ben, 2 000 euros par mois.
Ah, et vous passez de 2 000 à 1077.
Beaucoup, hein. Et vous avez cotisé pendant combien d'années?
Eh ben, j'ai cotisé 43 ans, mais alors il faut quand même je sais ce que vous allez me demander. Effectivement, je vais avoir une retraite complémentaire. Alors retraite complémentaire des salariés. Ouais. Alors là, accrochez-vous, vous êtes tous assis, donc c'est parfait. C'est 99 euros, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, 99 euros.
Quand on a travaillé toute sa vie, évidemment, c'est un problème.
Alors, vous voyez, quand je vois tout ça, après, moi, quand j'entends qu'on cherche du personnel, qu'on cherche des gens, mais il faut que les gens arrêtent de travailler, ils vont arrêter de travailler, les gens.
Ouais.
C'est quoi l'envie d'aller travailler aujourd'hui? Enfin, moi, j'ai eu envie de travailler, puisque à son compte, vous savez, on compte pas les heures, les trucs.
Ah, bah, c'est sûr.
Mais quand on fait le calcul.
Et la retraite n'est pas terrible quand on a son compte.
Dès qu'on est indépendant, c'est
le faire. Parce que vous soulevez quelque chose d'important. Vous soulevez une retraite grâce à votre partie salariée, mais la partie à votre compte, c'est très, très peu, j'imagine.
Vous rendez compte, je vais perdre 900 euros par mois.
Enfin, c'est énorme, Didier.
C'est colossal.
Un peu moins parce que vous allez justement être augmenté.
Non, mais c'est le problème des travailleurs indépendants. Il y a deux poids, deux mesures sur les travailleurs indépendants.
C'est quand même colossal. C'est pas normal que.
Je suis d'accord.
Par rapport au minimum vieillesse, si on fait le ratio. Qu'est-ce que j'ai de plus?
Mais c'est le problème. Et en fait, le problème, c'est que en fait, le gouvernement, il peut pas baisser le minimum vieillesse. Vous imaginez dans l'opinion, vous allez pas dire attendez, le minimum vieillesse, c'est quoi pour qu'il y ait une vraie différence entre le travail et le non-travail?
Il est en dessous du niveau de pauvreté déjà, comme l'a rappelé.
Bien sûr.
Didier, t'as 80 euros parce que le minimum vieillesse c'est 936 ou 956?
953.
Voilà. Donc il est à moins de à peu près 80 euros du minimum vieillesse.
Mais avec l'inflation, on peut pas mettre de côté aussi, parce que quand on est travailleur indépendant, l'intérêt c'est de mettre un peu de côté, mais quand on gagne 2000 euros en pleine inflation comme ça, qu'est-ce qu'on va mettre de côté? Il faut vivre, au quotidien.
Et en plus, quand t'as 30 ans, tu penses pas, je vais mettre de côté pour ma retraite, parce qu'en fait, tu t'en fous et puis tu commences à y penser quand t'as 50, mais c'est déjà trop tard. Vous avez plein de messages, Rémi.
Notamment ce message de Fabien qui nous dit 200 euros d'écart entre celui qui bosse et celui qui ne bosse pas. Si la réforme passe, effectivement, il y aura 200 euros à peu près de différence entre le minimum.
Aujourd'hui, il y a moins, on va le rappeler.
Ah oui, aujourd'hui, il y a moins. Quelle honte, nous dit-il. Autant que j'arrête de bosser, ça me reposerait et je pourrais profiter de ma famille avec mes 50 heures par semaine pour pouvoir vivre correctement, nous dit-il. J'en ai marre de cette injustice, sérieusement. C'est trop.
Et est-ce que ça peut aussi fracturer la France quelque part, Robert, c'est-à-dire effectivement la France qui travaille et celle qui ne travaille pas, quoi. Quand je disais on regarde toujours le voisin, on a beaucoup quand même d'appels au 32-16 de jour depuis le début de l'année là qui nous disent franchement des fois j'ai deux boulots, je gagne pas ma vie et je vois qu'à côté mon voisin lui il est assez tranquille et pourtant il est au chômage depuis un an. Et ça c'est un vrai problème quand même.
Vous savez, on parle toujours du vivre ensemble, la solidarité n'existe pas et ça en fait partie. Ça en fait partie. Parce que quand on avait parlé de la retraite à points, ça avait un avantage, c'est que ça mettait tous les salariés, que ce soit des salariés indépendants ou des salariés en entreprise ailleurs. Et là, si vous voulez, cette perte de solidarité, elle est liée aussi à des gens qui disent, écoutez, vous n'avez jamais travaillé, moi j'ai travaillé, regardez, on a 100 euros ou 150 euros de différence. Donc je pense qu'il faut être extrêmement vigilant là-dessus, Et moi j'ai peur, si vous voulez, que justement cette réforme des retraites, parce que ça risque d'être la seule réforme que veut faire pendant ce nouveau quinquennat, ça met un petit peu le feu aux poudres, parce que on voit pas quelle peut être la solution.
On revient sur les salaires notamment. Je pense vraiment qu'il y a une méconception qui est que les gens ne veulent plus aller au boulot. Alors peut-être que ça a changé en termes de génération et qu'il y a peut-être... moi j'en parlais, c'est vrai, avec mes grands-parents notamment qui étaient... mon grand-père était ouvrier, ma grand-mère était coiffeuse. Elle me disait, nous on bossait tout le temps.
Alors ça, se tuer à la tâche même.
Mais est-ce que c'est souhaitable? Pas forcément.
Mais il y avait une fierté dans le travail aussi.
Ça je suis d'accord.
Notamment dans le monde ouvrier.
Oui, mais dans le monde ouvrier, quand on était dans une usine avec un syndicat où on rentrait à 15 ans et on faisait toute sa carrière, c'est pas la même chose que d'être intérimaire chez vente privée en fait. En fait, il y a aussi le format du travail qui a changé. Mais je pense que vraiment, il faut qu'on arrive à se dire que la plupart des gens veulent juste travailler et vivre de leur travail. Donc se repose la question, notamment de l'augmentation du SMIC. On nous dit la valeur travail, les gens veulent plus bosser. Mais en fait, moi, je comprends qu'au bout d'un moment, on se pose la question de rentabilité. Enfin, si ça coûte plus cher d'aller au boulot que de pas y aller, c'est un vrai problème. Ouais. Baisser les aides, honnêtement, les gens, ils sont déjà suffisamment dans la galère. Moi, il faut pas y croire, ces gens qui vivent dans le luxe en gagnant le RSA. Bien sûr, qu'il y a des gens qui n'ont pas travaillé et qui gagnent un revenu. Je peux entendre que moralement, ça puisse choquer, etc. Mais il faut pas se faire le film qu'ils vont à Dubaï toutes les 5 minutes. Par contre, quand on bosse tous les jours, qu'on se lève tous les jours, on devrait pouvoir aller une fois en vacances par an. Et on devrait pouvoir bien vivre sans se poser la question de faire les courses à la fin du mois.
On est avec Benoît qui nous appelle de Limoges. Bonjour Benoît.
Bonjour Estelle, bonjour à tout le monde.
Vous avez quel âge Benoît?
Bonjour. 45.
Oh bah ça va. Enfin je veux dire ouais, ça va. Enfin, il vous reste 20 ans à bosser quoi.
Ouais, 20, on aura peut-être même 22 d'ici là.
On va avoir 25, hein, on a le même âge Benoît. Ouais, on va bosser jusqu'à 80 ans je pense. Ouais. Benoît, est-ce que vous justement à 45 ans ça vous fait peur de voir le montant de ce minimum vieillesse et est-ce que vous vous dites oh là là, faut que je cumule deux boulots finalement parce que sinon ça n'ira pas?
Non, moi je suis assez objectif et puis je suis dans le moment présent, je suis pas dans l'avenir. Je trouve que c'est pas mal, hein, une petite augmentation c'est toujours mieux que rien.
Oui.
Maintenant, c'est pas beaucoup. Hein. Franchement, c'est vrai que ça fait peur. Moi, j'ai une petite mamie, 93 ans, elle a toujours travaillé dans sa vie. Elle a travaillé toute sa vie. Elle a pas une carrière complète parce qu'elle a élevé ses trois enfants. Mm-hmm. Enfin, et un ou deux ans, quoi, chaque enfant. Elle touche 645 euros.
Oula. Ah oui, voilà, je sais pas comment elle fait.
C'est pas des masses, hein.
Bah non, c'est rien. Baisse.
Voilà. Moi, maintenant, ce qui m'embête un peu dans cette réforme des retraites, je suis ni pour ni contre. Je pense qu'il faudrait que ça soit débattu intelligemment, avec des vrais échanges, des choses qui soient imposées.
Là, il y a des discussions là entre le gouvernement et les syndicats. Hein.
Bah oui, mais là, on nous parle de départ, de repousser l'âge de départ à la retraite, alors qu'on devrait parler de durée de cotisation. Moi, je bosse, j'ai 45 ans, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Je comprends pas pourquoi on voudrait que j'aille à 64.
Ah ben non, mais attendez, Benoît, il y a deux critères. Il y a la durée de cotisation et l'âge pivot en fait. Donc dès lors que vous avez travaillé vos, je crois que c'est 43 désormais.
Je tombe dans la réforme, donc après 67, je crois, un trimestre.
Bon, admettons 45. Si vous avez commencé à bosser à 16 ans, et ben à 61 ans, vous pouvez partir à taux plein à la retraite. En fait, il y a deux critères. Donc vous serez pas touché par ça, mais effectivement, vous aurez une carrière longue, quoi.
J'aimerais bien poser une question aux politiques. Hier, j'écoutais, il y avait M. De Rugy sur une radio concurrente. Ouais. Est-ce que le régime des retraites parlementaires va être touché par cette réforme? Parce que quand je vois Monsieur Pierre Moscovici qui touche premier président de la Cour des comptes, hein,
oui, non, mais merci.
27 000 euros par mois, 19 000 euros de retraite.
Oui, bah, je suis d'accord.
Et c'est comme ça, on ne peut pas prendre à certains et continuer à donner à ceux qui ont déjà tout, quoi. Enfin, il faut un peu de justice.
Mais à un moment donné, c'est nous qui produisons la richesse, hein, c'est les travailleurs qui produisent la richesse, et ce sont des députés qui, en moyenne, touchent plus de à peu près 6 000 euros.
Mais ils cotisent aussi, ils cotisent pour votre retraite, pour les gens.
Ils bossent un peu quand même, Benoît, on ne va pas dire que c'est pas des feignants non plus.
Non, mais
après, de toute façon, la réforme des retraites, elle sera pour tout le monde. Il y aura certainement quelques régimes épargnés, on parle notamment des petits rats de l'Opéra de Paris qui devraient continuer à avoir leur régime. Certains régimes spéciaux vont être conservés, mais la plupart, en fait,
est-ce que les avocats qui ont leur caisse qui est tout à fait rentable,
c'est ça.
Moi, ça ne me gêne pas que les avocats aient leur caisse de retraite. S'ils ne me demandent pas de l'argent à moi. Par contre, il y a d'autres.
Mais on va leur reprendre.
D'autres caisses de retraite qui ne sont pas rentables.
On va leur prendre l'argent. Oui. De leur caisse.
Je pense que l'État va prendre l'argent là où il est. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, ce qui m'interroge, c'est comment on va choisir les régimes spéciaux qui restent. Parce que
c'est la clause du grand-père.
Non, mais parce que ma mère, par exemple, elle est prof. Donc, si on suit, elle m'a élevée seule, etc. Donc, 67 ans, il faudrait qu'elle parte à la retraite. Mais qui peut faire court devant des enfants où ils sont 35 à 67 ans?
Surtout
ça n'a pas de sens.
Ça veut dire qu'il y aura la pénibilité qui va rentrer en compte. Mais ça, c'est des discussions actuellement avec les syndicats. Gislaine nous appelle de Rochemort, dans l'Ardèche. Bonjour Gislaine.
Oui, bonjour.
Bonjour Gislaine. Bonjour.
Et Gislaine, vous êtes retraitée?
Oui, je suis retraitée depuis 9 ans.
D'accord, ça se passe bien?
Oui, jusqu'à maintenant, je n'avais pas trop de soucis. Mm-hmm. Mais là, avec toutes les augmentations qui arrivent, oui.
Ben voilà.
Oui. Mm-hmm. Et je voulais continuer à travailler parce que ma retraite, elle est tombée brutalement, l'entreprise ayant été rachetée. Mm-hmm. Et elle est à 25 km de chez moi. Je voulais continuer jusqu'à 65 ans, mais je ne gagnais que 15 euros de plus.
Ben voilà.
Et j'avais des frais de transport.
Mais le coût de déplacement, bien sûr.
Ah oui, donc vous avez décidé de vous mettre à la retraite. Bah oui, c'est logique, Justine, ça, on comprend. Mais vous touchez combien
Alors, ma retraite à moi, j'étais assistante de direction, même à la fin assistante de gestion. Mm-hmm. Mais il y a une chose auquel on ne pense pas non plus. Suivant les régions où on habite, les salaires sont plus hauts ou plus bas.
Bien sûr, vous avez raison.
J'ai travaillé longtemps en Haute-Savoie, les salaires étaient assez hauts, mais le logement est très cher. Mm-hmm. Je suis venue ici, mais par contre, les salaires étaient bas. Ce qui fait que j'ai fini ma retraite, ma vie professionnelle, avec des salaires peu importants.
Plus élevé, ouais.
Et j'ai travaillé tout le temps, mais j'ai eu des temps partiels imposés. Et ma retraite à moi, elle est de 1100 euros. Et je peux vous dire qu'avec ça, on ne vit pas.
Ah bah surtout en ce moment, bien sûr.
Mais pourtant, j'ai un mode de vie décroissant parce que j'habite dans un mobilhome à l'année, totalement isolé, barre des bois, donc c'est une maison. Mais c'est un mode de vie décroissant.
Vous avez cotisé pendant combien d'années, Gislaine?
42 ans et demi.
Ah ouais, non, mais c'est pas normal. Non, alors, vous allez être augmenté de 30 euros, Gislaine.
Parce que s'il compte la reversion que je perçois, j'aurais peut-être pas les 30 euros.
Ah oui, parce que vous avez une pension de reversion. Oui, là, c'est possible que vous ne soyez pas compris dans ces critères.
Si je n'avais pas cette pension de reversion, je crois que j'aurais eu envie de mourir, hein, carrément.
Non, mais je comprends, mais c'est vrai.
C'est là qu'il faudrait demander aux parlementaires. Qui vit les parlementaires? Qui vivrait aujourd'hui avec 1100 euros? Mais personne. Donc en fait, les gens qui font des lois par lesquelles ils ne seront pas concernés, moi, ça m'interroge quand même beaucoup. Enfin...
Oui, mais alors après, tu peux pas te dire, tiens, je suis député, je fais des lois que pour les gens qui gagnent 6 000 euros par mois.
Non,
ça, c'est impossible.
Bien sûr,
mais faire des lois pour tout le monde.
C'est là qu'il faudrait un peu plus de représentativité chez nos élus.
Mais ça, c'est les gens qui votent. Donc ça, après,
c'est les partis qui investissent.
Oui, mais tu votes pour qui tu veux. Après, t'es électeur. Voilà,
normalement, il y a des choix qui sont conscients de la réalité. C'est pas des bons politiques. Je veux dire, un peu, quel que soit le parti, on s'intéresse quand même à ce qui se passe dans votre pays. Vous êtes responsable de l'établissement de loi.
Et puis un bon député, c'est celui qui est en circonscription tous
les
week-ends,
et qui peut voir les gens, et qui parle avec les gens.
Voilà, on n'a pas besoin de vivre la vie des gens pour connaître leurs problèmes.
Non, mais ce serait bien qu'il y en ait qui l'aient quand même vécu, parce qu'il y a quand même une différence entre savoir théoriquement ce que faire les courses avec un budget.
Ça, on est d'accord. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Le gouvernement annonce une retraite minimum à 1130 euros. Est-ce que c'est suffisant, Rémi ?
Ce n'est pas suffisant, et c'est massif. Ce n'est pas suffisant pour 69% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On se posera cette question qui va beaucoup plaire à Fred Hermel. Faut-il interdire les corridas en France ? On parlera également des déclarations du chanteur Daniel Guichard, avec son vieux par-dessus râpé, tout ça. Daniel Guichard s'est inscrit à un club de tir parce que il a peur de la situation du pays. Est-ce qu'il faut se faire justice soi-même?
Cette
information, du canard enchaîné, la femme d'Éric Ciotti qui aurait cumulé plusieurs emplois publics pendant des années, trois emplois en même temps, c'est quand même.
Elle travaille beaucoup. Hein.
Elle travaille. Ben, ouais.
La
valeur travail.
Et elle a travaillé avec le pire ennemi de Ciotti, avec Monsieur Estrosi.
Oui, exactement. Écoutez, on vous racontera tout ça. Dans un instant. Et puis alors, une histoire avec Haribo extraordinaire. Eux, c'est les radins de l'année, mais alors radins de chez radins, je n'ai jamais vu ça. On vous explique tout dans un instant dans le zapping. À tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin. Ce matin, faut-il interdire les corridas en France? Ça fait plusieurs années que l'idée est sur la table et aujourd'hui, les députés vont examiner une proposition de loi des Insoumis visant à interdire la corrida au profit du bien-être animal. Une proposition qui inquiète grandement les professionnels de la corrida. À l'image de Jean-Baptiste, il est torero et gérant d'une épicerie à Dax.
Je pense surtout aux gens qui vont au corrida, les spectateurs. Ça serait juste leur enlever une partie de l'identité de cette région-là pour finalement toute la ville et toute la région soit un impact qui serait catastrophique. Les plus grosses périodes en termes d'attractivité, ce sont les férias de Dax. La feria implique automatiquement les corridas. Donc automatiquement, économiquement, il y aurait vraiment une perte pour tous les commerçants, les hôtels, les restaurants, car c'est à environ 60 à 70% du chiffre d'affaires de l'année qui est réalisé durant 5 jours.
Fred Hermel, je sais que vous êtes un aficionado des corridas. Vous savez que ça va passer, cette loi-là.
Non, ça va pas passer.
Ah, ça vient d'être rejeté en première lecture, en commission.
Voilà, ça va pas passer.
Enfin, c'est le sens de l'histoire.
Non, c'est pas le sens de l'histoire.
C'est pas le sens de la tradition, mais c'est le sens de l'histoire.
J'ai vécu 30 ans en Espagne, donc de Cécile, j'ai vu des corridas et de très bonnes. Il faut expliquer une chose. Alors, tous les arguments sont valables, mais simplement, les défenseurs de la nature doivent comprendre que si on supprime les corridas, on fait disparaître une race de taureaux.
Oui.
Non, mais il faut savoir, c'est-à-dire qu'une race de taureaux va disparaître, qui n'existe que pour ça. Mmh. Ce qu'on appelle le toro bravo, c'est-à-dire que ce sont des taureaux de combat.
Oui.
C'est-à-dire, et qui sont, je peux vous dire que la vie d'un taureau de combat, avant de finir dans l'arène, c'est pas mal du tout, Non, mais je vous le dis,
Oui, parce enfin,
que là,
Enfin, au niveau de la mort, on n'est pas non plus.
Non, sur, la mort, elle est pas. Bon, c'est vrai que la mort. Hein, alors ensuite, quand on parle des banderies, du picador et tout ça, en fait, c'est rien par rapport à ce que eux-mêmes se mettent entre taureaux. Ce sont des taureaux qui se battent énormément dans les champs. Non, mais j'explique pas. Il n'y a que la mise à mort qui les tue. Le reste.
Oui, c'est assez logique.
C'est-à-dire, ce sont des taureaux de combat. Mais donc, il faut savoir que c'est une race de taureaux, donc une espèce animale, qui ne survit que parce qu'il y a la corrida. À partir du moment où on supprime la corrida, on va faire disparaître cette espèce de taureau.
D'accord.
Aux écologistes, c'est savoir s'ils veulent faire disparaître une espèce animale.
Il est extraordinaire.
Bah, je sais, c'est pour ça que je suis dans ton émission.
Non mais, Robert Sebag, votre avis sur la question? Je vous sens très partagé.
Oui, d'abord parce que je suis contre les interdictions systématiques. Donc déjà, ça c'est idéologiquement parlant. Après, c'est le problème de la souffrance animale. Mais la souffrance animale, elle est aussi dans les abattoirs.
Elle est surtout là.
Est-ce que fait maintenant l'étouffement, pas étouffement? Avant, on avait dit que c'était uniquement pour les viandes rituelles. Maintenant, on le fait systématiquement. Les élevages de poules par milliers, les porcs qu'on transporte dans des camions. Donc, il y a tout ça. Après, il y a les traditions régionales. Je pense qu'effectivement, ça va mourir peut-être de sa belle mort, sans faire de jeu de mots. Alors peut-être qu'il faut interdire aux mineurs, par exemple aux enfants, de dire qu'ils n'assistent pas à ce spectacle.
Mais attention, mais donc tu perds la tradition.
Non, mais attention, la tradition culturelle, c'est quelque chose d'important. On peut pas tout tuer. On peut pas tout tuer. Vous savez, c'est le combat de la bête et de l'homme. Ça a existé sous les Romains. Ça s'est perpétué un petit peu partout.
Ah ben, ça vient des Romains.
Les jeux du cirque, etc. Donc, mais effectivement, on peut être tout à fait impressionné. J'ai assisté une fois dans ma vie à une corrida. Et je dois dire que j'étais l'environnement, la musique, si vous voulez.
Les couleurs.
C'est vrai qu'il y a quelque chose, des couleurs, il y a quelque chose de très fort. Alors après, effectivement, il y a la mort du taureau avec toutes les ablations qu'on lui fait en fonction de ce qu'a fait le toréador.
Toréro, s'il te plaît. Toréador, c'est
oui, pardon. Toréador, c'est Carmen.
C'est alors, Carmen, Toréro, c'est une erreur
d'accord,
historique.
D'accord.
Oui, bon, bon on va pas remettre en cause Carmen non plus.
Donc, moi, je suis.
Oh, mais ça viendra, t'inquiète pas.
Je veux comprendre. Je pense que la loi ne passera pas. Parce qu'on a donné la liberté à tous les groupes politiques, quels qu'ils soient. Et vous avez des pro-corrida à droite, à droite, à gauche, un peu partout. Et des
anti aussi à droite.
Et donc, je pense pas que ça peut. Après, vous allez mettre en quarantaine, entre guillemets, toute une région. Je pense au Pays Basque. Alors, on peut dire, on va maintenir les cours de taureaux sans qu'il y ait de mise à mort, la vachette, etc. Mais ça risque d'être un petit peu brutal. Et puis, je veux dire, attention, on peut pas tout supprimer en termes de tradition culturelle.
Lumière Laprès, est-ce que vous êtes pour l'interdiction de la corrida?
Moi, je suis un peu partagée.
Aussi.
Oui, bah, en fait. Je pense que bon déjà en termes écologistes à mon avis il y a d'autres priorités là maintenant tout de suite on a parlé de l'essence, la rénovation thermique des bâtiments, enfin moi il y a des sujets qui m'intéressent parce qu'ils touchent à la vie quotidienne des gens, j'ai plus envie de me battre là-dessus. Après par contre l'argument de c'est la tradition, je le minorerai un peu parce que par exemple je viens d'une région où on a tendance parfois à rentrer bourré en voiture. Ah c'est la tradition. Mais c'est une habitude. Mettre des choses à des gamins.
L'habitude, la tradition, c'est pas pareil.
T'élèves pas tes gamins en disant, hé, chérie, bientôt tu vas pouvoir conduire bourré, c'est formidable.
Alors, ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des habitudes et des pratiques qui doivent changer parce qu'elles sont meilleures pour le bien commun. Je sais pas si c'est le cas de la corrida. Je pense que oui, mais franchement, je suis pas une ayatollah sur ce sujet. Par contre, je fais juste attention à cet argument parce que pour moi, on doit aussi accepter de changer parce que parfois c'est bon pour nous. Et s'accrocher à des traditions par principe, ça me gêne un peu.
Quoi, c'est bon.
Deuxième extrait dans ce zapping, extrait des GG ce matin. Faut-il se faire justice soi-même? Le chanteur Daniel Guichard a expliqué s'être inscrit à un club de tir afin de pallier les défaillances de la police et de la justice. Des propos qui peuvent inquiéter, mais pour l'agriculteur des GG, Didier Giraud, le sentiment d'impunité est tellement fort qu'il comprend que certains citoyens prennent les armes pour se défendre.
À un moment donné, quand t'es dans l'empilage des faits, le gars qui se fait piquer du gasoil une fois, deux fois, dix fois, cinquante fois, quoi, il est plus raisonnable là-dessus. Moi, j'ai un copain qui a fait 10 ans de prison pour avoir tué quelqu'un qui lui volait des truffes. Il avait déposé 7 fois plainte. Le mec, il était identifié, quoi.
Ouais, mais 10 ans de prison pour des truffes.
Mais c'est son gagne-pain, quoi.
C'est terrible pour lui.
Ah oui,
c'est terrible pour lui d'être allé 10 ans en prison.
Mais on est d'accord que sa vie, elle a été gâchée par ça.
Et puis
à un moment donné, quand on est dans.
Voilà, le mec,
non, mais quand t'es dans l'empilement des larcins. Ça fait que le ton raisonnement structuré que tout le monde peut entendre, il est plus entendable au bout d'un certain temps, quoi.
Mais c'est parce que
quand tu t'es fait voler une fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, c'est plus entendable.
Ouais. Ça va loin quand même les propos de Didier Giraud, Robert Sebaille.
Attention à la notion d'autodéfense. Regardez, aux États-Unis où il y a l'autodéfense, ça n'a pas amélioré du tout. Non, mais ça n'a pas du tout amélioré. Oui, non, mais ça n'a pas du tout amélioré la situation en termes de sécurité. Deuxièmement, il y a l'état de droit. Alors, bien sûr qu'on peut être tenté. Je veux dire, au bout d'un moment, on dit, la police est insuffisante, il n'y a pas assez de policiers, la justice ne suit pas, on ne condamne pas les gens. Donc, mais ça me paraît extrêmement, extrêmement dangereux parce que c'est l'instinct, si vous voulez. Et là, on joue sur l'instinct des individus. Après, monsieur Daniel Guichard, qui a écrit de très belles chansons, sur le vieux, sur son père. Alors, c'est lui qui est vieux maintenant, peut-être. Qui a écrit
Pas tant que ça, parce qu'il a regardé, et il a écrit la tendresse.
La seule chose, si vous voulez, c'est quand on est une personne, une personnalité comme lui, attention, parce que on a une responsabilité quand on fait passer un certain nombre de messages.
Alors, après, excusez-moi, je ne crois pas, par exemple, que mes enfants écoutent Daniel Guichard en se disant, je vais faire comme Daniel Guichard.
Non, mais au niveau de la musique,
c'est pas au niveau des enfants, mais au niveau de certains adultes,
oui.
Non mais attention, quand on est connu.
C'est dangereux ce qui se passe en ce moment, Lumière Laprès, justement.
Oui, pour avoir habité aux États-Unis, je vous rejoins. Il y a vraiment un vrai sujet de circulation des armes, et c'est vraiment la différence entre la vengeance et la justice. Dans un état de droit, on part du principe qu'on fait confiance à l'État. Alors, est-ce que ça marche tout le temps? Non. Est-ce que par moment, je pense à si quelqu'un de notre famille est attaqué, est-ce qu'on a envie de se faire justice soi-même? Oui, mais c'est là que normalement l'État prend le relais, parce que sinon. Mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Enfin, on va pas s'en sortir. Et c'est, il finira par y avoir des accidents et ça va faire plus de mal que de bien.
Il y en a eu plein, malheureusement. Enfin,
c'est complètement irresponsable. A fortiori, je suis d'accord. Si jamais on est quelqu'un de connu et de reconnu, que de dire ça, il y a un moment. on vit pas non plus dans une loi de la jungle permanente en France. Enfin, faut quand même qu'on se le dise. Il y a aussi des gens dont le travail, c'est d'agiter ses peurs et ses angoisses au quotidien. C'est pas le Far West quand on sort dans la rue. C'est faux, ça.
Ça dépend où.
Oui, ça aussi. Apolline Matin, ce matin, ça c'est extraordinaire. C'est la radinerie du jour. Et cette radinerie, elle est signée d'une célèbre entreprise de confiserie, c'est-à-dire Haribo. C'est l'histoire insolite d'un chèque perdu, un chèque retrouvé par un homme qui, en voulant être honnête, n'a pas eu tout à fait la récompense attendue. Explication de Charles Magnin ce matin.
Qu'est-ce que c'est? Ça se passe en Allemagne, du côté de Francfort. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Anwar. Il a 38 ans. Et un matin, sur un quai de gare, Anwar tombe sur un chèque, égaré, par terre. Il le ramasse et n'en croit pas ses yeux quand il lit le montant affiché. 4 631 000 euros. Un chèque au montant astronomique rédigé à l'ordre de Haribo. Mais oui, les bonbons Haribo. Alors comme Anwar est très honnête, il décide de contacter l'entreprise Haribo pour leur faire part de cette découverte. L'entreprise le remercie, lui dit oui, en effet, on a perdu un chèque. Et elle lui dit qu'elle est très reconnaissante. Elle lui demande en fait de déchirer le chèque qu'il a entre les mains et de lui envoyer une photo en guise de preuve. Et comme Anwar
est très sympa, très honnête,
eh bien il s'exécute, il déchire le chèque, envoie la photo. Et quelques jours plus tard, il reçoit un colis à son domicile de la part d'Haribo. Alors à votre avis, quelle magnifique récompense reçoit-on quand on a retrouvé un chèque de plus de 4 millions d'euros?
Des assortiments de dingue.
6 petits paquets de bonbons. Non, 6 oh, tout petits
tout
paquets.
Oh, oui, c'est tout. Un peu radin.
Anwar raconte dans la presse allemande qu'il a trouvé le geste justement un peu radin. Mais Haribo se défend en disant de toute façon, personne n'aurait pu encaisser le chèque à notre place.
C'est pas fou.
Ce chèque n'avait aucune valeur. Donc qu'il se contente de ces 6 petits paquets.
C'est une mauvaise com. Parce qu'à la fin, on retient que Haribo, ils sont un peu radins.
Un peu.
Mais très radin. Le pire, c'est 6 petits paquets. Ils ont même pas signé des gros paquets, tu vois. Les paquets d'un kilo, les trucs. 6 petits paquets.
Non, mais en tant que journaliste, donc spécialiste de la communication, déjà, c'est extrêmement mal joué de la part d'Haribo. Parce que tu fais un coup, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là?
Tu fais des Haribo à vie.
Mais c'est ça, j'allais dire, Haribo, ton poids en Haribo.
Bien sûr.
Et plus tes enfants, ta femme, etc. Et ça fait un super coup de pub. C'est-à-dire qu'il y a tellement de nuls dans la com, mais tellement de mauvais. Moi, au-delà de la radinerie, c'est la bêtise et l'incompétence qu'il faut souligner quand même. Parce que là-dessus, ils avaient l'occasion de faire un super truc et ils s'en prennent plein la tête et c'est bien fait pour eux.
Ils peuvent toujours le faire.
Mais c'est voilà,
oui, mais par exemple, s'ils souhaitent se rattraper auprès
de Haribo, et puis
voilà, exactement. Ils peuvent toujours le faire s'ils nous écoutent en ce moment.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, moi je ne comprends pas, c'est la personne qui n'en parle pas au service communication, il n'y a personne pour dire attends, on va faire un coup avec ça.
Souviens-toi, il y a quelques semaines, dans l'affaire dramatique des pizzas Buttoni, qui étaient contaminés.
Ah ben ils avaient offert un bon.
Il y a des familles qui ont reçu des bons d'achat pour des
bons d'achat, oui. Des enfants morts.
Et avec des enfants morts, en fait.
Oui, ils sont pas très doués. Pourtant, on aime bien Haribo, donc c'est.
En amour, il faut des preuves.
Communication, je demande. Elles sont des boîtes de communication. Elles ont des directions absolument énormes,
mais
sur des trucs comme ça.
Mais pas des salaires comme ça et des agences qui te prennent des millions d'euros. Oh, c'est insupportable.
Non, mais le pire, c'est que ça partait d'un bon sentiment. C'est-à-dire qu'au départ, ils se disaient, on va prendre l'adresse de ce monsieur, on va lui envoyer un colis. Donc là, tu dis, c'est super. Mais la personne qui se dit pas tiens on va lui envoyer plus que 6 pauvres paquets enfin voilà bah écoutez mais peut-être qu'après ils vont faire un nouveau geste on sait jamais.
C'est trop tard le mal est fait
ils ont
l'air de gros radins
mais son point Haribo ça se prend en vrai ça se prend
c'est un appel
je veux dire dans un instant on parlera pas de bonbons mais de jus de fruits. Est-ce qu'il faut continuer à consommer des jus de fruits? On aura la réponse avec Stéphane Pedrazzi, la minute conso. À tout de suite sur RMC.
RMC midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h59 sur RMC, RMC Story, c'est le moment d'accueillir Stéphane Pedrazzi. On va parler conso dans Estelle Midi.
RMC, Estelle Midi,
la minute conso.
Et on va parler, Stéphane, aujourd'hui d'un produit qui n'a plus la cote, c'est les jus de fruits. Les Français boivent de moins en moins de jus de fruits.
Et oui, il y a encore quelques années, c'était l'ingrédient indispensable du petit déjeuner.
Ah,
et
vrai.
Puis, comme ils contiennent beaucoup de sucre, progressivement, on les a un peu laissés de côté. On en consommait 24 litres par an et par personne. En 2011, aujourd'hui, on est retombé à 18 litres. J'ai fait le calcul, ça représente une cuillère à café par jour et par personne. Donc évidemment, présenté comme ça, ça fait très peu. La France reste quand même le deuxième plus gros consommateur européen derrière l'Allemagne. Néanmoins, la tendance est claire, hein, puisque la baisse de la consommation est régulière depuis plusieurs années. Vous prenez des jus de fruits, vous, le matin?
Non, c'est trop sucré.
Ah oui.
Toujours.
Oui.
Non, moi, je prends des vitamines dans de l'eau.
Du jus de flamme.
Du thon. Du Berroca, ça. Quel plaisir.
C'était bon le
thon. Oh,
c'était
ça.
Tellement bon.
Mais en tout cas, on le voit quand même bien dans les magasins. Il y a de moins en moins d'espace pour les jus de fruits. Avant, il n'y avait que ça. Et là, maintenant, ça se réduit.
Ouais, c'est clair. Même pour ceux qui sont vendus dans des frigos, les jus de fruits frais, la taille des frigos a considérablement rétréci en 10 ans. Depuis 2015, les ventes reculent chaque année entre 2 et 3%. Cette année encore, au mois d'octobre, on était en baisse de 2,7% par rapport à l'an dernier. Et pour certains types de jus de fruits, je ne sais pas pourquoi, mais la dégringolade est spectaculaire. 90% de baisse pour le pamplemousse. On en boit presque plus, à part peut-être pour certains cocktails.
Il y a des contre-indications du jus de pamplemousse avec certains médicaments.
Merci.
Ça modifie, et vous avez beaucoup de médicaments, des antihypertenseurs, mais d'autres, qui vous disent surtout ne pas boire de jus de pamplemousse le matin en même temps que c'est comprimé.
Après,
ça modifie libération du médicament.
Et en tout cas, les magasins ont joué la carte de l'ultra frais. Ils ont essayé de dire, voilà, achetez un jus de fruits frais avec une machine qui est devant vous, presse les oranges. Mais on ne va pas se mentir, ça n'a pas été un franc succès. Si vous faites régulièrement les courses, pas qu'une question de tarif, ces machines, souvent, elles sont inutilisées. Parfois même, il n'y a plus d'oranges dedans. Oui. Personne ne les utilise.
Ne dites pas personne, pardon.
Un relais de croissance.
Je m'excuse.
Mais c'est un truc de bobo, excusez-moi, Robert.
Non,
parce que c'est pas bio.
Attention quand on jette l'anathème sur quelque chose.
D'accord.
Hein ? Il y a jus de fruits et jus de fruits. Est-ce que les céréales, est-ce que les cornflakes, c'est pas pire en termes de protéines, en termes de sucre, pardon, que les jus de fruits. Les jus de fruits frais, je suis désolé, vous avez à la fois des vitamines, vous avez à la fois des vitamines, certes du sucre, mais il faut du sucre aussi le matin. On est toujours en hypoglycémie quand on se réveille. Donc attention à jeter l'anathème. Vous avez des marques, on va pas les citer, qui sont vraiment des jus de fruits sans aucune addiction. Par contre, tout ce qui est jus de fruits fait à partir de concentré, c'est pas très très bon. Donc il faut savoir lire sur les bouteilles de jus de fruits.
Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane ? Pourquoi les ventes de jus de fruits ont dégringolé ?
Alors, à la différence de Robert, il y a eu un énorme changement de discours. Il y a une dizaine d'années, on nous racontait que le jus de fruits pouvait remplacer l'une des 5 portions de fruits et légumes qu'on recommande de consommer tous les jours. Sauf que dans le jus, il y a beaucoup de sucre et il y a beaucoup moins de fibres dans un fruit.
Vrai.
Et si vous regardez un litre de jus d'orange, il y a entre 4 et 6 oranges dans un litre. Donc, si vous buvez 250 à 300 millilitres, ça fait pratiquement 2 oranges. Ça fait beaucoup. J'ai regardé la teneur en sucre. Alors, une célèbre marque américaine qui s'achète au rayon produits frais, on est aux environs de 9 grammes de sucre pour 100 grammes. Ça fait 22,5, Robert. 22 grammes et demi de sucre pour 25 centilitres.
C'est énorme.
C'est beaucoup. C'est moins que le Coca-Cola, mais ça finit par faire beaucoup. Du coup, en 2020, le programme national Nutrition Santé les a changés de catégorie. Ils sont passés des fruits et légumes à consommer tous les jours au rayon boissons sucrées, c'est-à-dire à côté des sodas, des coca et autres réjouissances. Trop de sucre et impossible de les retirer, les sucres, pour des raisons légales, sinon ça s'appelle plus un jus de fruits. Et donc, voilà comment l'image s'est dégradée et les ventes ont suivi. Robert, c'est exagéré donc ça ?
Je dis pas que c'est exagéré. Je dis que faire la guerre au sucre, bien sûr, mais pour certaines personnes, quand vous avez un jeune enfant ou un jeune adulte, si vous n'avez pas de problème au niveau de votre pancréas, votre insuline, le sucre, c'est pas la toxicité par excellence.
En Espagne, donc, Robert,
mais je veux dire, médicalement, attention, je suis contre les anathèmes systématiques. Il faut expliquer. Moi, je voudrais savoir ce qu'il en est sur des cornflakes, sur un certain nombre de céréales qui sont prises le matin,
on dit que c'est mauvais.
Du lait ou du lait concentré, où on rajoute du sucre, met du sucre en poudre. C'est peut-être pire parfois, et certainement moins riche en vitamines, et en vitamine C en particulier.
Robert, est-ce qu'il faut le diluer, le jus de fruits, pour les enfants? C'est ce que recommande le...
Alors effectivement, vous avez, quand vous diluez...
C'est dégueulasse.
Non, mais d'abord, c'est pas très bon. Mais deuxièmement, si vous mettez, si vous avez 10 grammes de sucre dans un verre, que vous rajoutiez ce que vous voulez, et vous le buvez, vous aurez toujours 10 grammes de sucre.
Oui, mais si tu mets moins de jus de fruits, t'auras que 5 grammes de sucre et tu mets de l'eau.
Mais c'est pas bon.
Et ben, comme ça, l'enfant ne boit pas, il a encore moins de sucre.
Oui, ok. Est-ce que ça, c'est pareil pour les smoothies, les espèces de purées de fruits, là?
Alors, moi, je suis pas médecin, mais les smoothies, ce sont généralement des purées de fruits congelés, donc on perd les vitamines. C'est ce que tu disais, les vitamines, elles se perdent rapidement. Donc il y a du sucre, il y a des fibres effectivement parce que ce sont des fruits broyés, mais il y a du sucre et pas de vitamines. Donc
autant là je suis d'accord avec vous sur les smoothies, mais pas sur les jus de fruits.
Et on va rappeler quand même que les jus de fruits, quand c'est dans une bouteille transparente, et de toute façon les vitamines se perdent tout de suite parce qu'elles se perdent à la lumière. Donc en fait déjà ça, c'est aussi un souci. Il y a également l'inflation qui rend les jus de fruits de plus en plus chers, et effectivement c'est quand même plus cher que de l'eau.
Bah oui, ça va pas arranger les choses. Quand vous achetez un litre de jus d'orange, la matière première c'est de l'orange, c'est l'intégralité du jus, donc vous subissez de plein fouet la hausse du prix des oranges, alors que si vous achetez un soda, il y a beaucoup d'eau rajoutée dedans, et donc effectivement...
Et puis il y a le bilan carbone, parce que Quoi? C'est pour ça qu'on favorise. Mais si, on favorise le jus de pomme plutôt que le jus d'orange, parce que les oranges, elles arrivent de l'étranger ou elles s'est fait à l'étranger. Donc il y a le transport, alors qu'on a une production locale française de pommes et qu'on préfère le jus de pomme, en tous les cas l'utilisation du jus de pomme en termes écologiques par rapport au jus d'orange.
C'est toujours pratique d'avoir un médecin à la maison.
Oui. Ça te donne un nombre d'informations absolument incroyable. On parle de quoi demain, Stéphane?
Demain, on parlera des clients mystères. Gens qui vont dans les magasins incognito, qui sont payés pour le faire. Tu peux même aller tester des spas ou des grands hôtels.
Mais je trouve ça génial. Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi. Tous les jours, 13h50, la Minute Conso. Dans un instant, on va parler rupture. Stéphane, manière douce ou manière forte, y a-t-il une bonne façon de rompre?
Mais on se sépare pas chez moi.
Oh, c'est beau, j'adore. Il est formidable.
Mais c'est vrai, hein?
C'est vrai?
Ouais. Bon, je suis en couple depuis 25 ans.
Ah oui? Oui, enfin, vous savez, il ne faut jamais dire jamais. On ne sait pas.
Arrête!
Oui, non, mais c'est vrai.
Ça peut arriver du jour au lendemain. Hein. On ne s'attend pas parfois.
Et pouf!
Vous êtes des monstres, tu sais. À la radio de la télé, vous êtes des monstres.
Non, mais écoutez, mais on est ravis que votre couple aille bien. Stéphane, on verra si c'est la même chose pour nos auditeurs et nos téléspectateurs dans un instant, puisqu'on vous attend bien sûr au 32-16 pour nous répondre à cette question. Y a-t-il une bonne manière de rompre? Est-ce que par exemple, vous avez rompu des fois de manière assez violente, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre très délicat? On attend.
Non, j'ai des chiffres. J'ai des chiffres.
Voilà.
Est-ce qu'on... Par mail ou par SMS?
Non, mais personne ne rompt par mail. Mais c'est horrible.
Un truc de génie.
Enfin, en tout cas, on attend vos témoignages, croustillants ou pas, au 32-16. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.